affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Voilà, je me présente, je suis donc André Vacheron. Je suis professeur émérite de cardiologie à l'Université René Descartes, président honoraire de l'Académie nationale de médecine et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je voudrais aborder dans ce court exposé le problème de la fin de vie et des directives anticipées. Et pour bien situer ce problème, il me paraît indispensable de rappeler l'histoire très douloureuse de ce jeune homme de 32 ans, Vincent Lambert. Vincent Lambert était infirmier en psychiatrie à l'hôpital de Châlons en Champagne. Très apprécié par ses collègues, très aimé, c'est un garçon empathique. C'est le 29 septembre 2008 que Vincent Lambert, alors âgé de 32 ans, est victime d'un grave accident de la route. Il s'est marié, il a une petite fille de 2 mois, et il va survivre à son traumatisme crânien, mais avec une tétraplégie, c'est-à-dire une paralysie de ses 4 membres et de graves lésions cérébrales, dans un état de conscience minimale dit posi-relationnel. Il est pris en charge au CHU de Reims. À la fin de l'année 2012, 4 ans plus tard, voyez-vous, l'équipe médicale, dirigée par le docteur Carigère, dit percevoir chez lui des réactions comportementales qu'elle interprète comme des refus de soins. Elle se pose la question d'une obstination thérapeutique déraisonnable. En accord avec l'épouse de Vincent Lambert, les médecins de Reims décident le 10 avril 2013 de commencer un protocole de fin de vie, interrompant l'alimentation et réduisant l'hydratation du patient. Les parents de Vincent Lambert n'en sont pas informés et l'apprennent 17 jours plus tard. Avec le soutien d'un demi-frère et d'une sœur de Vincent, ils saisissent le tribunal administratif de Châlons en Champagne, qui estime que les médecins n'ont pas respecté la procédure collégiale imposée par la loi Leonetti sur la fin de vie. En n'associant pas les parents à leur décision. Ce tribunal de Châlons-en-Champagne exige la reprise des soins et notamment de l'alimentation et de l'hydratation artificielle. En janvier 2014, après 2 conseils de famille, avec consultation d'experts, l'équipe médicale de Reims décide à nouveau d'arrêter l'alimentation et l'hydratation du patient. Les parents saisissent une nouvelle fois le tribunal administratif de Châlons qui considère qu'on ne peut pas déduire des gestes vagues et du comportement de Vincent Lambert qu'il souhaite mettre fin à sa vie. Il suspend la décision médicale. L'épouse de Vincent Lambert et quelques proches déposent alors un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État nomme un nouveau collège d'experts, désigné par 3 institutions, le Conseil national de l'Ordre des médecins, le Comité consultatif national d'éthique et l'Académie nationale de médecine à laquelle j'appartiens. Les experts concluent que Vincent Lambert est passé d'un état de conscience minimal à un état végétatif sans aucun espoir de récupération. À la suite de ces conclusions, de ces expertises, le rapporteur du Conseil d'État, Henri Keller, conclut, et c'est très important d'entendre sa conclusion. Henri Keller conclut que lorsque les conditions de l'obstination déraisonnable sont réunies, lorsqu'il n'existe plus aucun espoir de récupération, de guérison, quand la quasi-totalité des médecins et de l'équipe médicale, ainsi que la majorité de la famille, se rejoignent pour dire que le traitement ne doit pas être poursuivi, lorsqu'il est permis de penser que tel aurait été le souhait du patient, alors la loi autorise la médecine à se retirer. Le 24 juin 2014, après avoir entendu ce rapport, le Conseil d'État se prononce pour l'arrêt des soins. Les parents de Vincent Lambert saisissent en urgence la Cour européenne des droits de l'homme qui vient de trancher le 5 juin. La décision médicale d'arrêter le traitement de Vincent Lambert ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l'homme. Elle est conforme à la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti. Une décision contraire cautionnerait l'acharnement thérapeutique. Les parents de Vincent Lambert n'admettent pas cette décision. Ils décident de poursuivre leur lutte contre l'arrêt des soins et ils demandent le transfert de leur fils dans un établissement qui s'engage à ne pas abréger sa vie. Quoi qu'il en soit, dans les situations aussi dramatiques que celle de Vincent Lambert, la décision, au cas par cas, doit rester une règle formelle. Et s'il y a en France 1500 à 1700 patients en état végétatif chronique ou de conscience minimale, les médecins en charge de ces patients ont une responsabilité essentielle à partager avec les familles des patients pour défendre une vie humaine précieuse, quelle qu'en soit la précarité. Dans leurs attendus, les juges européens ont rappelé le rôle primordial de la volonté du patient dans la prise de décision. Et c'est ainsi qu'on aborde le problème des directives anticipées. Le projet de la nouvelle loi sur la fin de vie a été adopté le mardi 17 mars 2015 à l'Assemblée nationale par 436 voix pour, 34 voix contre et 83 abstentions. Le texte, porté par les députés Alain Claës, Parti socialiste et député de la Vienne, et par Jean Leonetti, qui appartient au Parti des Républicains, l'ancienne UMP, député des Alpes-Maritimes, ce texte n'autorise ni l'euthanasie, ni le suicide assisté, mais instaure un droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les malades en phase terminale. Il rend contraignantes les directives anticipées, c'est-à-dire qu'elles s'imposent aux médecins. Les directives anticipées permettent à toute personne majeure et capable de faire connaître ses souhaits relatifs à sa fin de vie, et notamment son refus de tout acharnement thérapeutique pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Elles existaient déjà. Dans la loi Leonetti de 2005, mais elle n'était valable que 3 ans et pouvait ne pas être suivie par les médecins. Le nouveau texte de loi prévoit qu'elles s'imposeront aux médecins, sauf en cas d'urgence vitale, nécessaire à une évaluation complète de la situation. Il est évident qu'on ne peut pas, quand un grand traumatisé arrive dans une unité de réanimation, dire « on a les directives anticipées, il faut arrêter à la réanimation, il faut quand même faire le point, scanner, etc. » Le nouveau texte de loi prévoit donc qu'elles seront sans limite de validité, mais révisables et révocables à tout moment. On peut revenir sur ces directives anticipées qu'on a pu écrire à 50 ans et on peut changer d'avis quand on en a 70. Ces directives anticipées, quand elles sont faites de façon indépendante doivent être consignées sur un, elles seront consignées sur un registre national, faisant l'objet d'un traitement automatisé. C'est ce qui est prévu dans la nouvelle loi. Elles étaient réalisables jusqu'à présent sur papier libre. Elles devront être remplies sur un papier officiel en cours de préparation pour éviter les imprécisions compliquant la tâche des médecins. Les députés ont également adopté les dispositions donnant un rôle accru à la personne de confiance désignée par le patient par écrit pour exprimer sa volonté s'il ne peut plus l'indiquer. Habituellement, quand vous entrez dans un établissement hospitalier, qu'il soit public ou privé, on vous demande de désigner une personne de confiance. C'est elle qui pourra parler pour vous si vous n'êtes plus en état de le faire. Les directives anticipées doivent être conservées dans le dossier médical personnel, des copies remises au médecin traitant, à la personne de confiance quand elle était désignée, à un proche familial. Et quand on dispose d'une mouture de ces directives, il faut l'apporter en cas d'hospitalisation ou d'entrée en institution. Alors, il y a un élément intéressant et qui est fourni par les résultats d'une étude réalisée par l'Institut national d'études démographiques, l'INED. L'INED a réalisé en 2010, en lien avec l'Observatoire national de la fin de vie dirigé par Régis Aubry et auquel j'appartiens, une vaste enquête sur les conditions de la fin de vie en France. Plusieurs milliers de certificats de décès ont été analysés. Seulement 2,5% des patients, hors d'état de participer à la décision de fin de vie, avaient rédigé des directives anticipées. 2,5% seulement sur plusieurs milliers de malades. Et ces directives anticipées, que l'on a pu trouver, ont été un élément décisionnel important pour les médecins dans 72% des cas. C'est-à-dire que dans plus de 2/3 des cas, les médecins ont tenu compte de ces directives. Les directives anticipées sont très mal connues de notre population. Les Français restent très frileux pour les rédiger. La fin de vie fait peur. Et pourtant, ces directives anticipées constituent un véritable testament de vie, qui pourrait d'ailleurs être déposé chez le notaire. Lors d'une décision de limitation ou d'arrêt de traitement, les médecins doivent les rechercher, vérifier leur validité et les respecter dans leur décision collégiale. Il est intéressant de voir ce qu'est devenu la nouvelle loi sur la fin de vie au cours de son parcours parlementaire. Elle avait été donc adoptée à l'Assemblée nationale, au mois de mars. Le 17 juin 2015, elle est arrivée au Sénat. Et les sénateurs l'ont examinée et l'ont modifiée profondément, alors qu'elle avait été adoptée à une très large majorité transpartisane, le 17 mars à l'Assemblée nationale. Le droit à la sédation profonde pour les patients atteints d'une affection grave et incurable a été amputé de l'expression « continue jusqu'au décès », jugée dangereuse par le sénateur républicain d'Ille-et-Vilaine, Dominique Delège, dans la mesure où elle prouvait que l'intention était bien de précipiter la mort, c'est évident. L'auteur de l'amendement, Dominique Delège, a souligné qu'il fallait laisser de la souplesse aux équipes soignantes, et aux patients aussi, dans la décision de pratiquer et de poursuivre une sédation continue ou non, jusqu'au décès ou non. Le député Alain Claës, qui était l'un des deux auteurs de la nouvelle loi, souligne que la possibilité d'un réveil du malade en sa fin de vie est en fait la négation du droit de mourir dans le sommeil. Je pourrais faire une remarque sur, effectivement, la fluctuation de la phase terminale d'une vie. J'ai vu un malade en très grande insuffisance respiratoire au stade terminal d'un cancer du poumon intubé, ventilé, respirant par une machine et véritablement condamné, reprendre conscience et dire au médecin « J'ai été heureux qu'on ne trouve pas mes directives anticipées, car j'ai envie de vivre encore quelques mois. » Les sénateurs ont demandé également que l'hydratation artificielle puisse être maintenue jusqu'à la mort, car elle constitue un besoin fondamental du patient. Enfin, ils ont remplacé le caractère contraignant des directives anticipées par l'expression « elles s'imposent au médecin ». Ils ont remplacé ce caractère contraignant par la formulation « le médecin prend en compte les directives anticipées », ce qui revient à la formulation antérieure de la loi Leonetti. C'est sûr que la fin de vie, que l'évolution de la fin de vie peut être fluctuante, avec des améliorations qui peuvent susciter la volonté de survivre. Et pour moi, médecin, je pense que nous devons rester responsables de nos actes, et qu'il serait peut-être préférable d'indiquer en fin de rédaction des directives anticipées que l'auteur accorde toute sa confiance à l'équipe médicale qu'il prend en charge et qui ne peut agir que dans son intérêt, mais qu'il demande en conséquence que les décisions de l'équipe médicale soient respectées et ne soient pas l'objet d'un débat familial, d'un débat entre les proches. Quoi qu'il en soit, je pense que lors du retour du projet de loi à l'Assemblée nationale, les députés vont revenir à leur formulation initiale en deuxième lecture et que cette formulation va probablement être adoptée. Pour terminer, je voudrais dire qu'ainsi accompagné de directives anticipées convenablement rédigées, la nouvelle loi de fin de vie pourra répondre aux situations désespérées, irréversibles, de certains accidents cérébraux, de certains accidents médulaires, traumatiques ou pathologiques, il n'y a pas les accidents de la route. Dormir avant de mourir pour ne pas souffrir, c'est ainsi que Jean Leonetti, auteur de la loi de 2005 contre l'acharnement thérapeutique, a résumé la proposition de sa nouvelle loi, et personnellement j'y souscris. Thank you.